France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, question sur un paysage politique en pleine recomposition avec un centre victorieux dans les urnes et une extrême droite au plus haut. Marine Le Pen a parlé au soir de sa défaite dimanche dernier d'une éclatante victoire, ce qui peut paraître surprenant mais qui n'est pas totalement faux. À chaque scrutin, le RN progresse. Alors ce soir, on va s'arrêter sur la géographie et la sociologie du vote d'extrême droite. Qui vote RN? Qui vote Zemmour? À quel endroit et pourquoi? On se demandera au passage si l'extrême droite a des chances de transformer l'essai aux législatives. Même question concernant la gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui rêve d'une cohabitation avec Emmanuel Macron. En attendant, les négociations sous l'égide de la France insoumise se font dans la douleur du côté du PS, plus divisé que jamais. La droite, elle, n'est pas en reste avec une partie des troupes tentées de rejoindre Emmanuel Macron, d'autres qui ne veulent pas en entendre parler, sans oublier ceux qui ne seraient pas contre un rapprochement avec Éric Zemmour. Autant dire que les sables sont mouvants et que l'histoire n'est pas terminée. Avec nous pour répondre à toutes vos questions. Erwan Lecoeur, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, chercheur associé au laboratoire Pacte de Sciences Po Grenoble, spécialiste du RN et des écologistes aussi. Le démographe Hervé Lebras, bonsoir.
Bonsoir.
Et restez avec nous, lui qui a décortiqué toutes les cartes du premier et du second tour, examiné les reports de voix. Est-ce que cela préfigure pour les scrutins des 12 et 19 juin prochains? Avec nous également Élodie Forêt. Bonsoir Élodie.
Bonsoir.
C'est vous qui suivez Éric Zemmour et Marine Le Pen à la rédaction de France Inter. Thomas Legrand est avec nous également, notre éditorialiste du matin. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Claire.
Alors n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Le numéro, vous le connaissez.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, direction Saintes en Charente-Maritime. Bonsoir Michel.
Bonsoir à vous.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter, Michel. Vous avez une question ou une remarque pour commencer cette émission?
Voilà, j'ai un questionnement. Merci d'avoir pris mon appel et bonjour à tous les répondants, entre guillemets. J'ai noté qu'il y avait un enseignant universitaire, donc ça va être intéressant. Ma question est la suivante. Pourquoi qualifie-t-on le Rassemblement National de parti d'extrême droite? Enfin, d'une manière générale, hein, je le cite. Puisque, quels sont les critères, les lignes hein, qui font qu'on l'on passe d'un parti de droite à un parti d'extrême droite? Quels sont donc les critères, sachant que, de ce fait, on est en face d'un parti de droite qui ne fait pas peur, et un parti d'extrême droite qui, de par même son nom, fait peur.
Merci Michel pour cette question. Il y a même deux universitaires là, deux chercheurs. Il y a Erwan Lecoeur et il y a Hervé Lebras. Longue carrière universitaire de chercheur à eux deux. Qui veut commencer peut-être? Erwan Lecoeur, allez-y.
Si vous voulez.
Sur cette question-là.
Alors, c'est
une question extrême droite
qui est très souvent posée et qui pose régulièrement polémique. Elle est polémique parce que l'extrême droite, comme l'éditeur l'a très bien dit, ça a une dimension polémique. Ça voudrait disqualifier par rapport à droite qui serait beaucoup moins disqualificatoire. Traditionnellement, en sciences politiques, on considère qu'un mouvement est d'extrême droite ou d'extrême gauche quand, dans son origine et dans sa fondation, il se fonde sur l'idée qu'il ne faut pas forcément respecter les règles entièrement de la République et de ce que certains ont appelé la gueuse dans l'extrême droite traditionnelle, dans l'extrême droite historique. Et donc, en l'occurrence, quand on parle du Rassemblement National, on prend en compte le fait que ce parti vient du Front National, fondé en octobre 1972, par ordre nouveau et qui a confié à Jean-Marie Le Pen la direction, mais ce n'était pas Jean-Marie Le Pen qui l'a créé, c'est bien Ordre Nouveau. Ordre Nouveau était un groupuscule d'extrême droite, avec des gens qui étaient très nettement, très clairement issus de ces mouvances-là, hein, anticonstitutionnelles, qui ne respectaient pas ni les règles démocratiques, ni la République. Mais ils avaient créé quelque chose, un Front National, pour l'unité des Français, FNUF, ça s'appelait à l'époque, pour aller à l'élection, pour jouer le jeu électoral à un certain moment. Mais leur idée n'était certainement pas de gagner par les urnes, leur idée était de gagner dans la rue. Donc, le Front National a longtemps été un parti qualifié et de fait d'extrême droite par sa provenance, par sa composition. Beaucoup de gens venaient des milieux fascistes, néo-fascistes, monarchistes, etc. Et petit à petit, avec notamment dans les années 2010 l'arrivée de Marine Le Pen, il a été de moins en moins. Mais originellement il l'est, c'est pour cela qu'on garde cette dénomination. De la même façon que pour par exemple la gauche trotskiste, on considère que c'est l'extrême gauche parce qu'ils ne considèrent pas que ce soit forcément par les urnes qu'on arrive au pouvoir et uniquement.
Sachant que le RN comme le FN avant conteste cette nomination.
Tout à fait,
bien sûr. Hervé Lebras, sur cette question de Michel, sur la dénomination, vous rejoignez
ce que vient de dire? Oui, je rejoins l'aspect historique, mais je crois que même plus simplement,
Il s'agit de décrire l'arc des partis. Donc, ils sont l'extrême droite est à la droite de la droite, de la même manière que l'extrême gauche était la gauche de la gauche. Pour l'extrême gauche, d'ailleurs, il y a une histoire beaucoup plus longue. Dans les années, au début du XXe siècle, les socialistes étaient qualifiés d'extrême gauche. C'est encore le cas, d'ailleurs, dans les livres de Gogol. Et puis ensuite, ça a été les communistes. Et puis maintenant, vous l'avez dit, c'est les trotskistes. Donc, de la même manière, de l'autre côté, ben, il y a une droite. Donc, qu'est-ce qui est à droite de la droite? Alors, quelquefois, on ne dira pas extrême droite. On dira, par exemple, en Suisse, ou bien en Espagne, on dit plutôt droite extrême. Enfin, je veux dire, ça veut dire la même chose. Hein. Donc, je crois que c'est le positionnement. Et là, c'est des positions relatives. On ne peut pas dire que Marine Le Pen est de droite. Elle est à l'extrême droite parce qu'elle est à droite de la droite, tout simplement.
Thomas Legrand, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, il y a aussi une dimension journalistique, c'est-à-dire que on peut considérer, certains journalistes considèrent, moi par exemple, que bien des aspects de la modération affichée de Marine Le Pen est une sorte de leurre. Et on n'a pas beaucoup de mal à le lever. Quand Erwan Lecoeur disait que l'extrême droite, une des définitions, un des critères pour être d'extrême droite, c'est de ne pas vouloir jouer le jeu de la démocratie. Par exemple, la préférence nationale, on sait que la préférence nationale, pour la mettre en œuvre telle qu'elle est décrite dans les 9 pages du projet de loi soumis à référendum, qui serait à soumettre à référendum, il faudrait d'abord violer la Constitution pour passer par l'article 11, on l'avait démontré, mais surtout, elle se mettrait, si cette loi était mise en place, elle se mettrait en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme qui figure au préambule de notre Constitution. Et donc, ça serait une rupture avec un texte qui date de la Révolution, qui a été mis au préambule de la Constitution par les constituants résistants de 1946 et confirmé au préambule de notre Constitution par le général de Gaulle. Donc là, ça laisse dans la radicalité de droite le Front National, malgré une peinture républicaine assez récente.
Alors, vous êtes d'accord tous les trois. Élodie Forêt, vous qui suivez l'extrême droite pour la rédaction de France Inter.
Non, mais ce que je trouve intéressant, peut-être ces dernières années, peut-être encore plus sur cette campagne, c'est que j'ai l'impression que les repères politiques ont un peu explosé et que effectivement, on a beaucoup cette question qui revient. Les gens nous le demandent dans la rue, et aussi parce que par exemple, économiquement, est-ce que Marine Le Pen est plus à droite qu'un LR ? Enfin, ça peut être compliqué ça à définir. Elle est voilà sur les retraites, par exemple, elle va être moins libérale que la position LR ou celle d'Emmanuel Macron actuellement. Par contre, c'est clair, c'est ce que disait Thomas, donc il y a ce truc de la Constitution avec la priorité nationale, mais il y a aussi toujours dans le programme de Marine Le Pen un ressort xénophobe. C'est effectivement cette préférence nationale, c'est l'immigration zéro, c'est vraiment la fermeture des frontières, c'est la suppression des aides aux étrangers, et ça c'est toujours dans le programme aujourd'hui du RN, et je pense que ça en fait de facto encore un parti d'extrême droite.
Voilà pour cette entrée en matière à propos des mots que l'on utilise. Nous allons maintenant à Toulouse retrouver Franck. Bonsoir Franck.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bienvenue, merci à vous aussi pour vos émissions. Moi j'ai été frappé lors de la campagne là, de voir passer des vidéos complotistes qui m'ont été transmises par des gens que je considère comme sensés, hein, certains de mes amis. Et des vidéos qui présentent Macron comme le fasciste dans l'histoire et non pas Marine Le Pen qui, elle, serait la sauveuse de la France face à un complot mondial nazi et qui finit en disant d'ailleurs la France livre des armes aux nazis ukrainiens. Et bon, moi j'étais complètement atterré, mais manifestement ce genre de vidéo a prise sur les esprits et notamment chez pas mal de manifestants gilets jaunes qui ont pris des gaz lacrymo et du flashball et qui considèrent désormais que Macron effectivement n'est pas un démocrate.
Merci Franck pour cette remarque à Erwan Lecoeur sur ces vidéos complotistes.
Alors ce qu'il y a d'intéressant et de, je dirais presque d'inquiétant dans à la fois dans la question et dans le résultat. On travaille sur la question de la fachosphère. Ce qu'on appelle la fachosphère, c'est des centaines et des centaines de sites, pages Facebook, pages YouTube, mais aussi des réseaux sociaux plus confidentiels. Depuis maintenant pas mal d'années, une vingtaine d'années à peu près, on a vu évoluer cette fachosphère. Donc vous comprenez un peu le terme. Ces dernières années, sous l'impulsion d'un grand nombre de mouvements sociaux d'une part, On peut penser bien sûr aux gilets jaunes qui ont été impactés par cela, c'est-à-dire que certaines pages Facebook ont essayé d'intégrer le mouvement des gilets jaunes, de lui apporter de l'aliment. On l'a vu aussi chez les anti-vax, chez les anti-pass. On a vu un confusionnisme de plus en plus important se développer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un phénomène de société global. Ce phénomène de société est, je dirais, poussé et aidé par, très clairement, des officines qui, depuis l'étranger notamment, parce que l'internationalisation de ces groupes-là est une réalité aujourd'hui depuis plus de 10 ans maintenant, et on a vu une internationalisation des thématiques, des attaques, de la façon dont c'est créé, dont c'est diffusé. Ça venait notamment de l'Amérique de Trump, ça vient aussi de la Russie, de Poutine, ça vient de tout un tas d'autres endroits dans le monde, de l'Inde, de tout un tas d'autres endroits, et ça passe les frontières, ça passe tout un tas de choses. Ce qu'il faut noter, je pense, de plus en plus, et par rapport à notre campagne qui vient de se terminer, c'est que le confusionnisme intégral, l'espèce de relativisme très fort d'un certain nombre de, je dirais, de fondamentaux comme le clivage gauche-droite, qui de fait a vécu, je dirais, ces derniers moments un petit peu dans les urnes, on le voit bien, eh bien, la fin de ce clivage gauche-droite laisse tout un tas de gens un peu orphelins de vision sociétale et de vision politique. Ils ne comprennent plus qui est le gentil, qui est le méchant.
Il y a une perte de repère. Quoi,
exactement. Et on l'a bien vu, et votre auditeur le dit, qui est le fasciste quand il y a des policiers qui attaquent des manifestants, gilets jaunes. Le fascisme, c'est une histoire politique, c'est 1922, c'est un certain nombre de choses. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas vraiment dire que le régime actuel en France soit un régime fasciste du tout. Le fascisme, c'est plutôt des jeunes hommes qui viennent s'en prendre à d'autres dans les rues. Ça vient de là, hein, Fasci, les Fesseaux, au départ, les chemises brunes, pour être précis, et notamment contre les chemises rouges, les communistes. Et donc ça, en ce sens, la fachosphère a beaucoup utilisé les réseaux sociaux, l'internationalisation, et je dirais la confusion complète dans laquelle sont de plus en plus de gens dans nos pays, et pas seulement dans nos pays.
Élodie Forest, sur l'utilisation des réseaux sociaux par l'extrême droite, on peut dire que ça a été massif lors de cette campagne.
Surtout du côté d'Éric Zemmour, beaucoup plus que du côté de Marine Le Pen, qui, pour le coup, le RN n'avait pas une cellule riposte incroyable sur les réseaux sociaux. Hein. C'est une dizaine de personnes qui ne maîtrisent pas très très bien les codes, on l'a vu. Et celui qui maîtrisait le mieux les codes, et qui s'appelle Damien Rieu, et qui est une figure de cette fachosphère dont parlait Erwan Lecoeur, est parti chez Éric Zemmour, et pour le coup, a vraiment travaillé à ce que sur les réseaux, ça soit effectivement une machine de guerre. Il y a d'autres personnalités dans l'équipe d'Éric Zemmour, hein, comme Samuel Lafon, qui vient de la Manif pour tous. C'est des gens vraiment armés, qui savent y faire, qui savent lancer... Alors moi, j'y connais pas grand-chose, hein, mais des hashtags qui vont pour le coup vraiment percer sur Twitter, etc., et faire effectivement qu'il y ait des vidéos, qu'il soit des choses complotistes, qui passent le mur du son. Ils ont beaucoup attaqué notamment Valérie Pécresse sur tout un tas de sujets d'islamo-droitisme. Enfin, ça, c'était, voilà, ça faisait partie vraiment de leurs armes de campagne, effectivement.
Hervé Lebras, sur la question de l'histoire, hein, parce que Erwan Lecoeur, il faisait allusion, il y a une espèce de grande confusion, de manque de connaissances historiques aussi bien souvent, qui fait qu'on mélange tout.
Oui, il y a un manque de connaissances, mais d'abord, il y a quand même un point positif par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que Marine Le Pen, apparemment bien moins armée, a fait 22% et Zemmour a fait 7%.
C'est vrai.
Donc déjà, on peut dire que ce n'est pas un rouleau compresseur. Mais ce que je trouve plus étrange d'une certaine manière, c'est que on est dans une époque où, les Français sont beaucoup plus éduqués qu'ils ne l'étaient il y a une cinquantaine d'années. Si vous mettez en 68, il y avait à peu près un peu moins de 10% de la population qui avait un peu, non pas même obtenu un diplôme après le bac, mais commencé des études après le bac. Maintenant, on est à des chiffres au-delà de 60%.
Certes, donc, mais vous avez vu un peu le travail des historiens pour essayer d'expliquer à Éric Zemmour que ce qu'il disait sur Pétain, c'était faux.
Voilà, mais deux, donc il y a déjà en principe, la population est plus éduquée. Et deux, les moyens d'information ont fait des progrès formidables sur ce que sont des faits mesurés. Et face à ça, on s'aperçoit que, au contraire, comme d'ailleurs votre auditeur vient de le dire, on fait confiance à des vidéos qui sont envoyées par des gens en qui on a confiance, ce qui est quand même un petit peu dommage par rapport à toutes les possibilités qu'on a. Et il y a une réflexion à mener dans ce sens que je pense que dans l'éducation elle-même, le virage n'a pas été pris pour apprendre aux jeunes et aux enfants qu'est-ce que c'est qu'une bonne source. source fiable? Qu'est-ce que c'est qu'une information? C'est
on tente de le faire, même ici à, oui, à non, France vous Inter, le bien, avec le programme Interclasse, on essaye aussi.
Mais à l'école, mais
il y a du boulot.
Assez,
oui. On est d'accord, il y a du boulot. Thomas Legrand, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, à propos du statut de la vérité qui est mise à mal, qui on l'a bien vu pendant cette campagne et qui sert les extrêmes, l'extrême droite. Un personnage comme Nicolas Dupont-Aignan et avec Florian Philippot qui l'a rejoint ont pendant cette campagne dit n'importe quoi, ont insinué des choses jusqu'à dire que l'élection était truquée. Donc il y a cette insinuation, cette instillation du doute en permanence qu'utilise l'extrême droite, quelquefois aussi de l'autre côté, dans la gauche radicale. Souvenez-vous autour du vaccin, pourquoi on n'utilise pas le vaccin russe, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc ce rapport à la vérité, il est fragile et certains en politique l'utilisent et s'en servent. Et c'est vrai que ça a beaucoup pesé pendant la campagne, je trouve.
Avec beaucoup de dangers, effectivement. Awan Le Cœur, je vous laisse parler deux secondes parce qu'il faut qu'on reparte
oui,
au standard.
Il ne s'agit pas seulement de déplorer, hein. Ça veut dire aussi que beaucoup de gens sont en train de chercher d'autres vérités parce qu'ils ne sont pas convaincus par les vérités qu'on leur assène depuis longtemps. Ça, c'est une première chose et sociologiquement, il faut quand même l'entendre. Et deuxième chose, on l'a vu notamment en Guadeloupe, en Martinique, eh bien, il y a aussi une histoire de l'État qui a pu mentir à certains moments et donc on ne le croit plus. Et donc, on va faire du tout sauf le gouvernement, tout sauf Macron. On l'a vu en Guadeloupe où le vote a été Mélenchon au premier tour, Le Pen au deuxième tour, contre Macron, contre l'État central, contre le vaccin, contre le pass, contre le chlordécone éventuellement. Et c'est là que j'en venais, c'est que quand l'État ment une fois, c'est difficile de récupérer derrière.
Marc est dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir appelé France Inter. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Et première chose, le Rassemblement National a fait 57,5% dans le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais était socialiste. Pendant un temps, et il a basculé Front National, Rassemblement National. Je pense qu'une des raisons essentielles, c'est une raison de clientélisme politique. On constate partout des élus qui ne pensent qu'à une chose, une fois qu'ils sont élus, c'est d'être réélus. Et ils sont en campagne permanente. Et en plus, il y a un processus d'entre-soi. Si bien que le citoyen de base n'a pas la sensation d'être entendu. On l'écoute, et puis après, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Donc en gros, c'est à peu près ce qui se passe et qui fait qu'il y a un agacement montant en disant « on n'est pas entendu ». C'est d'ailleurs le slogan des Gilets jaunes. Voilà à peu près ma pensée.
Merci Marc du Pas-de-Calais pour cette remarque. Qui veut lui répondre? Élodie Fauré, tiens, vous qui avez suivi Marine Le Pen dans ce département.
Non mais c'est sûr qu'il y a une désillusion par rapport aux élus, par rapport aux hommes et femmes politiques en place. Il y a une désillusion par rapport à nous, aux médias, enfin, ce qui rejoint un petit peu ce que disait Erwan Le Cœur tout à l'heure. Enfin, il y a une défiance en fait, pas tout ce qui peut représenter l'élite, ceux qui gouvernent, ceux qui disent ce qu'il faut penser. Et on retrouve ça extrêmement fort dans le Pas-de-Calais et dans d'autres départements. Donc oui, ça joue, surtout que Marine Le Pen, elle a cet aspect très, très populiste. Enfin, je veux dire, ouais, pendant des longueurs de discours, elle va parler du bloc populaire contre le bloc élitaire et se faire comme ça la porte-voix de ce bloc populaire qui n'est pas entendu. Donc la porte-voix, d'ailleurs, son dernier discours pour ça était incroyable. C'était peuple de France, les oubliés, les fragiles, les abandonnés. Voilà, tous ceux qu'elle voulait en fait à la fin, dont elle voulait capter en fait le vote. Et évidemment, il y a une responsabilité certainement à un moment des gens qui ont gouverné et aussi peut-être des médias, etc.
Et des politiques oui. qui n'ont pas tenu leurs promesses aussi. Hervé Lebras, oui.
Oui, je pense. Bon, la situation qui est écrite par cet intervenant. Mais elle a, je dirais, elle a presque toujours existé. C'est-à-dire que quand vous voyez ce qui se passe à la fin du 19e siècle dans la Troisième République, par exemple au moment de l'affaire Dreyfus, quand vous voyez ce qui se passe dans les années 30 avec les ligues, il y a eu une sorte de, au fond, de sentiment très général, assez curieux dans la République que les hommes politiques sont de toute façon, pensent qu'à eux, sont des pourris. Là, je trouve pas qu'il y ait une très grande nouveauté. En revanche, je pense à quoi il faut s'intéresser, puisque cette personne est du Pas-de-Calais, c'est pourquoi il y a cette réaction dans le Pas-de-Calais, les 57% qu'il a indiqué, mais que si vous allez dans la Mayenne, vous tombez à un chiffre beaucoup plus faible. Donc,
alors dites-nous, vous qui travaillez justement sur les cartes.
Oui, je pense qu'il y a d'abord des...
Il y a une raison géographique.
Oui, il y a deux raisons. Géographiquement, il y a deux France de ce point de vue-là. Il y a la France qui vote assez largement pour le Rassemblement national et puis une France qui est où les chiffres sont beaucoup plus faibles. Grosso modo, dans un Grand Ouest et une partie du Sud-Ouest, on vote nettement moins pour le Front National que dans un Grand Est et puis sur les bords de la Méditerranée. Mais ça correspond à des difficultés sociales d'abord, c'est-à-dire que on fait une carte de du taux de chômage des jeunes, des jeunes sans diplôme, des familles la proportion de familles monoparentales, on tombe à peu près sur la même coupure. Et plus grave peut-être encore, c'est au fond aussi une coupure sur les attentes et sur les anticipations. Dans la partie sud-ouest et surtout ouest de la France, il y a beaucoup d'attentes positives. Les populations ont encore le sentiment que le progrès existe et elles ont ce sentiment parce que elles sont beaucoup plus proches de leurs racines paysannes. L'exode rural a été beaucoup plus tardif. Donc elles savent ce qu'était la misère paysanne il y a une cinquantaine d'années. Dans un grand nord-est et puis dans la partie méditerranéenne, c'est trop lointain, l'exode rural. Il n'y a plus ce souvenir d'un progrès. Et je pense que ça joue. C'est-à-dire qu'il y a et d'ailleurs, on voit aussi, ça joue, si je dis que les jeunes sont sans diplôme en beaucoup plus grand nombre dans les régions qui votent pour le RN, c'est aussi parce qu'ils n'ont plus d'attente dans les diplômes, alors qu'à l'ouest ou au sud-ouest, il y a encore une certaine attente.
Erwan Lecart.
Oui, l'auditeur l'a très bien dit d'ailleurs. Le Nord, le Pas-de-Calais, l'Est de la France sont des régions qui ont été, je dirais, détruites plus tôt en termes agricoles. La Première Guerre mondiale, 1914, a été dramatique de ce point de vue. Il y a eu des champs de bataille qui ont détruit l'agriculture paysanne dans tous ces endroits-là. Je suis quelqu'un du Nord. Pour moi, le Nord, c'est les usines, c'est l'embrigadement par le travail, par le syndicat, par tout un tas de structures qui tenaient la société comme cela dans tout le Nord, dans l'Est. Et donc, quand ces structures-là se sont effondrées au tournant des années 50, 60 et 70, avec la fin des mines, la fin des grandes industries, eh bien, tout un tas de gens qui s'intégraient par le travail, les Italiens, les Polonais, tout un tas d'autres qui venaient d'Afrique du Nord, qui s'intégraient par le travail, bon an, mal an, eh bien, se sont plus intégrés, parce qu'il n'y avait plus de travail, parce que, d'une certaine façon, le travail partait. Donc, ça, c'est un premier élément. Ensuite, deuxième élément, et l'auditeur le laisse entendre quand même, il y a eu de la part d'un certain nombre de hiérarques et d'élus socialistes dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans l'Est, des choses qui ont été relativement mal perçues et mal comprise, et on peut l'entendre. Il est clair que Hénin-Beaumont était une ville qui était dans une situation absolument dramatique quand Marine Le Pen a commencé à s'y intéresser avec Steve Briouat, l'enfant du pays. Donc il y a plein d'exemples comme cela en France, où en effet, la vieille gauche, la vieille droite, au tournant à la fin du XXe siècle, ne s'est pas rendu compte que le clivage gauche-droite ne permettait plus d'assurer leur prééminence sur la société. Et donc ils n'ont pas voulu faire l'effort, et d'autres sont venus. Macron au milieu avec le « et droite et gauche », et Le Pen avant lui, avec le ni droite ni gauche.
Alors, on va continuer notre petit tour de France. Cette fois, on va aller dans l'Yonne, retrouver Guy. Bonsoir, Guy.
Bonsoir et merci de prendre mon appel.
Merci d'avoir patienté, Guy.
Je rebondis avec retard sur l'émission de ce matin, France Inter, de me rendre une dame du Lot-et-Garonne qui était effarée des résultats. Pour ma part, c'est également pareil, ville où je suis, 5600 habitants. Terreau de droite, puis de Gaulle, UMP, et tout ça, c'était à droite, et ça se réveille, alors qu'il n'y a aucune raison, ici, d'attentat, de feux de poubelle, etc. Il y a un calme relatif, si vous voulez, qui fait... Mais on s'aperçoit qu'on a deux clans, le clan de la ville, où c'est vraiment des professions tertiaires, et le clan de petits pays à côté qui votent. Alors là, c'est encore plus incompréhensible. Mais j'ai écouté vos intervenants, je pense qu'il y a l'éducation, c'est vrai, les gens ne savent pas. Et ils disent, en majorité, souvent, il faut, pourquoi pas Le Pen ? On a tous essayé, ben non, ils n'ont pas essayé de comprendre. Et il faut comprendre, il faut se méfier des charmeurs, style Zemmour, qui susurent tout le temps un discours de haine contre d'autres, et ça, il faut le faire, l'expliquer. Voyez-vous ?
Merci, voilà. Guy. Merci beaucoup d'avoir appelé France Inter. On a tout essayé, Erwan Lecoeur,
Oui,
on l'entend beaucoup, hein.
On l'entend beaucoup parce que c'est une des choses qui, depuis les années 90, a été véhiculée, développée par le Front National, déjà de Jean-Marie Le Pen. C'était en gros, nous sommes la seule alternative au système. Je vous rappelle, hein, la bande des quatre, l'UMPS, c'était le système. Et donc, contre le système, il n'y avait plus, c'est le piège dans lequel est tombé le Front Républicain dès les années 2000, c'est-à-dire de dire, en gros, c'est nous tous contre Le Pen, contre le monstre. Le monstre qui est devenu un peu plus gentil avec Marine, c'est pour ça que je l'avais appelé Casimir, c'était le monstre, mais en plus gentil, dans les années 2010. Et donc, aujourd'hui, on est un peu coincé par cela, c'est-à-dire ce tout sauf Le Pen, comme l'expliquait le monsieur, c'est tout à fait ça. Dans un certain nombre d'endroits, c'est pourquoi ne pas essayer l'autre chose, cette alternative au système gauche-droite qui semble s'être effondré, qui ne répond pas à toutes nos attentes, qui n'est plus capable de répondre à toutes nos demandes, pouvoir d'achat, plus, etc., etc. Tout un tas de demandes qui, culturellement, depuis les années 70, sont en progression phénoménale. On a une politique qui est de plus en plus culturelle. Et puis, un dernier élément, oui, il y a, on le voit bien, le niveau de diplôme est tout à fait encore un élément structurant du vote pour Marine Le Pen. Et puis on voit que, par exemple, Emmanuel Macron, là, a été, entre guillemets, comme Sarkozy avant lui, sauvé par les personnes âgées, plutôt. Un peu les jeunes, mais surtout les personnes âgées. Et donc on a une autre France qui se dessine aussi. C'est une France conservatrice des personnes âgées et une France qui est prête à prendre des risques avec, notamment avec Marine Le Pen, pas seulement, s'il vote Mélenchon au premier tour. Mais en tout cas, attention, parce que Marine Le Pen essaie, en effet, comme ça a été très bien dit, d'instaurer un clivage entre l'élite et le peuple. Ce clivage n'existe pas dans la société française, dans le réel. Il y a beaucoup plus de clivage que cela, et c'est beaucoup plus complexe. Mais parfois, Emmanuel Macron semble lui répondre en disant « Bah oui, nous, on est les progressistes, et vous, vous êtes en gros les méchants fachos ». Et ça ne marche plus, ces clivages ne fonctionnent plus. Il va falloir se remettre à analyser la société, à comprendre les cartes que nous propose Hervé Lebras, et à comprendre que la sociologie, c'est un peu plus compliqué que ça, que les sondages, ça ne donne pas une vision réelle de la société française qui, au jour d'aujourd'hui, je le dis rapidement, nous, dans nos grandes enquêtes, les Français sont plutôt pour la solidarité, pour l'écologie, pour l'environnement et pour l'avenir des jeunes. Et loin derrière, il y a l'immigration, l'insécurité ou l'islam.
Alors, oui. Tout le monde demande la parole, mais Thomas Legrand n'est pas dans ce studio et il la réclame aussi. Alors Thomas, c'est à vous, et ensuite ce sera Hervé Lebras et Élodie Forêt.
Oui, c'est juste par rapport à l'interrogation de notre auditeur sur le côté on a tous essayé, c'est évidemment la crise de l'impuissance publique, et c'est quelque chose que nous vivons depuis Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, à mon avis, n'a pas été élu parce qu'il a présenté un projet de droite, il a été élu parce qu'il s'est présenté comme une alternative au roi fainéant, c'est-à-dire Jacques Chirac, deuxième mandat, n'a pas fait grand-chose, a semblé impuissant, et c'est vrai que la mondialisation, l'Europe, ont désarmé un petit peu l'État, c'est l'impression qui a été donnée, et il s'est proposé comme ça. François Hollande n'a pas gagné parce qu'il était de gauche, mais parce qu'il était le candidat normal qui s'opposait à l'espèce d'agitation vaine qui finalement n'a rien changé de Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. On avait essayé la droite, la gauche, il propose un dépassement gauche-droite et donc une sorte de dégagisme propre, et c'est vrai qu'on voit comme ça se rapprocher l'idée que effectivement la seule qu'on n'a pas essayé pour l'instant, c'est Marine Le Pen, et ça devient tentant pour beaucoup d'électeurs qui sont attachés à la puissance publique et à l'efficacité publique qui semble disparaître.
Hervé Lebras.
Oui, je crois aussi que dans cette question de l'auditeur réapparaît, je pense, qui est une coupure fondamentale, on l'a beaucoup dit, mais qui s'est développée de plus en plus, qui est entre les villes, surtout les grandes villes, et puis les zones rurales. C'est devenu, on croit que c'est très ancien, mais quand au premier vote du Front National en 1984, les villes votaient plus que les zones rurales pour le Front National. Ça a duré jusqu'à, et c'était intéressant que Thomas Legrand cite Sarkozy, ça a duré jusqu'à l'élection Sarkozy. Et là, un basculement s'est produit. Vous savez que
il a siphonné une partie des voix.
Voilà, hein, avait commis le hold-up, comme disait Jean-Marie Le Pen, mais il a surtout siphonné les voix dans les villes et dans les grandes villes, beaucoup moins dans les zones rurales. Et à partir de ce moment-là, la balance a de plus en plus penché du côté du côté des zones rurales, et au contraire, dans les villes, la diminution a même commencé à partir, disons, de 2012, et elle s'est même accentuée pour arriver à 4,9% à Paris en 2017 pour Marine Le Pen au premier tour, 5,5% cette fois-ci. Et cette coupure est tout à fait problématique parce que elle oppose au fond un monde où on a l'impression que dans la ville, on peut faire
faire sa vie, on peut progresser justement, et puis que on est, certains ont dit assigné à résidence, c'est faux, mais on est quand même dans une situation très inférieure quand on est dans les zones rurales, et ça a déjà été dans le déclenchement de la crise des Gilets jaunes, très très clairement, c'était ceux qui étaient loin des services, les Gilets jaunes primitivement, c'est ensuite ils allaient sur des ronds-points qui étaient à côté des grandes villes, mais au départ, ils habitaient dans des campagnes qu'on appelle parfois celles de la diagonale du vide, et là, il y a un très gros problème de comment recoller au fond les villes et les zones rurales, et ça s'est encore accentué quand on voit, même entre les deux tours, le vote pour Marine Le Pen est encore devenu un peu plus rural qu'il ne l'était déjà.
Le score inversement proportionnel à la taille de la commune.
Oui, et ce qui est d'autant plus bizarre, juste un mot, ce qui est d'autant plus bizarre par rapport au dans le cas du Front du Rassemblement National, que les immigrés qui sont sa cible sont pas du tout dans les zones rurales, les immigrés sont essentiellement dans les grandes villes. C'est
alors quand... on a depuis les années 80 ce phénomène, ça s'appelle l'effet halo, H-A-L-O, et sociologiquement on peut l'expliquer notamment par un phénomène, alors que j'aime bien résumer comme ça, c'est dans les... Alors je suis pas sûr que ce soit le rural-rural, je dirais plutôt le périphérique éloigné, à plus de 50 km des villes, on voit qu'il y a vraiment un phénomène, voilà, une sorte de périurbain très éloigné à plus de 50 km des villes, un endroit où il y a de plus en plus de pavillons de banlieue. On a besoin de deux voitures pour pouvoir se déplacer, et où la plus grande fenêtre sur le reste du monde, c'est le téléviseur.
Élodie Forêt, puis ensuite on va repartir.
Je voulais rebondir sur quelque chose que disait Guy, qui était intéressante et qui rejoint un peu ce que vous disiez, c'est que il disait je comprends pas parce qu'il y a pas de problème sécuritaire dans ma commune, il y a pas d'attentat, et autant, alors c'est sûr qu'il y a encore un ressort sécuritaire contre l'immigration dans le vote RN, je dis pas ça, enfin notamment en meeting, les gens chantent toujours on est chez nous, ça n'a pas changé, mais quand on se déplace avec Marine Le Pen, et je suis allée dans Lyon avec elle dans un petit village qui s'appelait Pifon, de quoi lui parlent les gens, c'est des factures en fait, c'était pas de la sécurité. C'était pas du problème migratoire. C'est la facture d'électricité, c'est l'essence, c'est j'arrive pas à aller au boulot parce que ça me coûte trop cher en essence. Qu'est-ce que je vais devenir? Et je pense que ça, sur cette campagne, et c'est d'ailleurs ce qu'elle a parfaitement capté, c'était beaucoup plus le ressort et beaucoup plus ce qu'attendaient les gens.
Ah, elle a répondu aux attentes des gens, en tout cas dans son programme.
Et la peur quand même. Parce que la peur passe à travers, notamment la télévision, c'est pour ça que je parlais de l'écran de télévision, et cette peur-là, qui, dans les chaînes infos en continu, dans tout un tas d'endroits, est alimentée beaucoup plus que dans le passé, beaucoup plus, on a, tous les jours, on a peur, et c'est plus seulement à 20h, comme on disait, le 21 avril 2002, c'est toutes les heures, on a un peu plus peur, et le monde est de plus en plus menaçant, et ces gens-là veulent aussi être protégés de ce monde, et Marine Le Pen a en effet de plus en plus un discours protecteur. L'État, elle l'a repris à son niveau, contrairement à son père, et elle dit l'État, la laïcité, moi, un peu autoritaire, eh bien je vais vous protéger avec les moyens de l'État, contrairement en l'occurrence à Zemmour, qui lui n'a pas du tout compris cela.
Et puis surtout, elle utilise des arguments qui auraient peut-être dû être utilisés par la gauche, en tout cas sur la question sociale. Et voilà qui nous amène justement à une question qui concerne la gauche, parce que bon, on a dit qu'on allait parler des raisons du vote d'extrême droite, mais il n'y a pas que ça ce soir au téléphone sonne. C'est Anaïs qui est à Montpellier. Bonsoir Anaïs, on vous écoute.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Alors, je me demandais, en fait, c'était la même question que le premier auditeur, c'est en quoi on peut qualifier, par exemple, la France insoumise d'extrême-gauche, parce que pour moi, c'est la gauche. Et j'ai écouté une émission sur le CNR, Affaires Sensibles, aujourd'hui. Et
il Conseil National de la Résistance, j'imagine,
ouais,
oui,
voilà, c'est ça. Et ils reprennent les mêmes choses, et le Conseil National de la Résistance n'était pas qualifié d'extrême, en fait.
Merci Anaïs d'avoir bouclé la boucle quasiment de l'émission. Thomas Legrand, vous vouliez répondre à Anaïs?
Oui, eh ben la France insoumise, de mon point de vue, ne peut pas être classée d'extrême gauche parce qu'elle c'est la gauche, disons, radicale. C'est-à-dire qu'elle propose, elle a une certaine radicalité, mais elle ne propose pas de se départir des lois, de se départir de la Constitution. Elle propose de changer la Constitution, mais elle ne veut pas aller, elle ne veut pas rompre avec la Déclaration des droits de l'homme. Et surtout, Jean-Luc Mélenchon a mis sous la bannière de la République, c'était un républicain, on peut contester sa vision de la République, certains le font bien sûr, mais c'est un républicain, il a mis sous la bannière de la République toute une partie des électeurs d'extrême gauche. Je vous rappelle qu'en 2002-2007, Lutte Ouvrière et le NPA faisaient à peu près 10% de... l'extrême gauche existe, c'est Lutte Ouvrière et le NPA qui avaient deux candidats à cette dernière élection et qui proposent, eux, de passer par d'autres voies que l'élection pour changer la société et qui ne sont pas spécialement attachés à la République, aux valeurs de la République. Voilà, donc pour moi, la France insoumise ne peut pas être classée d'extrême gauche, même si elle est très radicale.
Hervé Lebrun.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Il existe une extrême gauche qui était représentée par deux candidats à cette élection, Poutou et Artaud. Mais je pense qu'il y a une distinction justement plus forte, qui est une distinction géographique. La répartition des la géographie, si on peut dire, du Front National puis du Rassemblement National est tout à fait nouvelle. Elle est typique de. Elle n'a pas d'antécédent politique, en fait. En revanche, la géographie du vote pour Mélenchon, c'est une géographie tout à fait traditionnelle. C'est une géographie de la gauche à laquelle s'est ajoutée une gauche où s'est ajoutée la partie, disons la partie bretonne, quoi, une partie de l'Ouest. Donc là-dedans, on est dans une Mélenchon est dans une tradition, de la même manière que en Allemagne, Die Linke est dans une tradition. Là, on est dans effectivement. Alors une gauche, on peut dire radicale, elle a toujours existé de la même manière dès les débuts de la Troisième République. Un parti s'est justement nommé radical pour se distinguer des républicains, mais c'était...
Alors je voudrais vous soumettre juste ce que nous dit Bruno, qu'on ne va pas pouvoir prendre et que j'en suis absolument désolé Bruno, parce qu'on n'a pas le temps, mais si je comprends bien, vous nous dites qu'il faut tout reprendre à zéro, lutter contre le complotisme et recréer des liens dans la société. Ce serait peut-être la meilleure chose à faire à Erwan Leucœur, et ça va être votre conclusion, parce que malheureusement
c'est évidemment la grande tâche qui est devant nous, l'éducation populaire, revenir aux bases de qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce qu'une fake news, qu'est-ce que toutes ces choses, et puis aussi reconstruire, je dirais, du sens dans ce que la politique peut apporter. Et on sait aujourd'hui qu'il y a trois blocs, aujourd'hui, en gros, dans notre pays. Sociologiquement, ça a du sens. Il faut que les partis politiques en tirent les conséquences et qu'ils agissent en fonction. Il y a bel et bien trois blocs. Un bloc social-écologiste, un bloc libéral-centriste et un bloc, je dirais, national-populiste à droite. Eh bien, dans cette nouvelle configuration, il faut refaire de la politique au sens le plus noble du terme.
Et là, c'est l'occasion, puisqu'il y a des législatives qui arrivent dans 6 semaines. Alors, c'est pas du tout terminé. On va continuer. Merci mille fois à tous les trois d'être venus. Un grand merci à Thomas Legrand également.